Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Consultation des groupes armés à Nairobi au Kenya. Certains groupes armés du Nord Kivu s'activent à rejoindre le Kenya, alors que ceux du Sud Kivu sont déjà sur place. Nous aurons le compte rendu de la journée inaugurale d'hier dans ce journal avec le porte-parole adjointe du président de la République. Invalidation d'un candidat vice-gouverneur dans la province de la Lomami. Il lui est reproché d'appartenir à trois formations politiques. Dans ce journal, vous suivrez l'avis d'un analyste en droit constitutionnel. Enfin, journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est ce 24 avril. À l'occasion, nous recevons dans cette édition Dr. Eric Mukomena. Il est directeur du programme national de lutte contre le paludisme en RDC. Il nous parlera des défis à relever dans cette lutte. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Consultation des groupes armés à Nairobi au Kenya, selon des sources proches des experts de la RDC, ce dimanche, certains groupes armés du Nord Kivu s'activent à rejoindre Nairobi, tandis que les représentants de certains groupes armés du Sud Kivu sont eux déjà arrivés hier soir dans la capitale kenyane. En ce qui concerne la séance inaugurale de ces consultations hier samedi, notez, la partie congolaise a demandé et obtenu la suspension de la participation du M23 Makenga en apprenant la reprise au Nord Kivu des affrontements hier après-midi entre ce groupe armé et les FRDC. Le compte rendu de cette journée avec Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République, jointe par Pierrot Elamiji.
Le représentant de la facilitation kenyane a tenu à rappeler avant de commencer à toutes les parties prenantes de la volonté du président Félix Tshisekedi, soutenu bien évidemment par les cinq chefs d'État de l'EAC lors du dernier sommet, à trouver donc une solution, on va dire, définitive à la sécurité qui reste préoccupante dans la partie est du pays. Alors vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu un incident qui a eu lieu dans la soirée pendant qu'ils étaient dans les consultations. C'était la reprise des hostilités par le M23 dans le Nord Kivu. Toutes les parties prenantes ont condamné à l'unanimité. La partie congolaise a exigé l'expulsion du mouvement de la salle, ce que les autres ont accepté. Il faut quand même rappeler que les représentants d'autres groupes armés qui étaient sur place se sont désolidarisés de ce qui est en train de se passer au Nord Kivu. Certains montrent déjà qu'ils sont volontaires à réintégrer les processus DDR ou en tout cas à déposer les armes. Le message principal du chef de l'État, c'est de déposer les armes, réintégrer le processus DDR-CS, sinon, vous le savez, il y aura bientôt la force régionale qui sera déployée pour combattre ceux qui ne voudront pas obtempérer, vont être gérés militairement par cette force régionale qui est assez déterminée.
En effet, Tina Salama l'a dit, des combats ont repris depuis hier samedi, opposant les FARDC aux rebelles du M23 dans la région de Djomba, territoire de Rutshuru. Sur le terrain, les deux parties se rejettent de la responsabilité sur la reprise de ces hostilités, Sifamaguru.
Le porte-parole des opérations Sokola 2, joint dans la soirée ce samedi, a indiqué que les forces régulières avaient bien observé le cessez-le-feu conformément aux instructions de leur hiérarchie. Leur riposte s'explique quand ils ont établi le constat que leur position de Bougoussa venait d'être attaquée par ces rebelles en violation du cessez-le-feu. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume affirme que les FARDC étaient dans leur droit de se défendre et les combats se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit. Sur un autre plan, le M23, dans un communiqué rendu public ce samedi 23 avril, souligne avoir répondu aux provocations des FARDC. Ce même communiqué accuse les FARDC d'avoir lancé l'offensive dans l'intention de perturber le dialogue de Nairobi. Cette reprise des affrontements intervient 13 jours après la décision unilatérale de ces mouvements de décréter un cessez-le-feu. Le M23 avait alors décidé de se retirer de ses positions défensives d'avant le 6 avril, notamment dans la région stratégique de Tchanzu et Runyoni. Notez que cette reprise des combats a engendré une panique dans la région, occasionnant une nouvelle fois la fuite des populations qui venaient à peine de regagner certains villages, rapportent des sources locales. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Allons dans la province de la Lomami, où la candidature de Mulumba Mudia Ndambu au poste de vice-gouverneur est écartée par le Conseil d'État depuis le 21 avril dernier. Il lui est reproché d'appartenir à trois formations politiques. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer pure et simplement l'annulation de la liste sur laquelle il figure. Pour sa part, contacté par Radio Kapi ce samedi 23 avril ici à Kinshasa, Donatien Onokoko, analyste en droit constitutionnel, estime qu'il revient à la Commission électorale nationale indépendante de tenir l'élection du gouverneur, le délai des contentieux électoraux étant largement dépassé. Donatien Onokoko le dit à Paul Matendo.
Étant donné que le vice-gouverneur est écarté de la course, l'élection aura bel et bien lieu. Ça va être on va élire le gouverneur. Parce que, en principe, c'est le gouverneur qui est élu. Lorsqu'on bat les campagnes, là, on est en train de battre la campagne, là. C'est le gouverneur qui est en train de battre la campagne, ce n'est pas le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, c'est un colistier du gouverneur. Et parce que lui, il est écarté pour appartenance à plus d'un parti politique, l'élection aura bel et bien lieu parce que on ne saura plus le remplacer maintenant parce que le délai de dépôt des candidatures est largement dépassé. Mais on va pourvoir au vice-gouverneur après. Mais sinon, l'élection va se tenir seulement avec le gouverneur, candidat-gouverneur. Et si par chance, celui-là va gagner les élections, alors on aura à pourvoir le vice-gouverneur à une autre occasion après l'élection qui aura lieu le mois prochain.
Et puis, examen et débat général sur la proposition de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Cléophas Kizanga, député national honoraire et expert en questions électorales, plaide pour la prise en compte de ses propositions d'amendement déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Amendement autour de la nature exacte de la caution à payer par les candidats ainsi que les garanties pour des élections crédibles et transparentes. Il propose ainsi à la CENI de mettre à la disposition du candidat en même temps qu'au cours et tribunaux, l'enveloppe contenant les copies des résultats issus de la machine à voter. On écoute Cléophas Kizanga, député national honoraire et expert en questions électorales. Il est au micro de Pierrot et la Mégie.
Toutes les lois électorales confondent la caution électorale et les frais. C'est ainsi que nous, dans la modification de cette nouvelle loi, voici l'appellation qu'il faut faire. Droit de dépôt des candidatures aux élections. Et on ne peut pas appeler ça frais, mais nous avons vu dans la modification de la loi, sous examen, ils disent là-bas, preuve de récépissé des paiements de frais. On doit enlever paiement de frais. C'est le droit de dépôt des candidatures.
La deuxième chose, c'est autour de la transparence et la crédibilité du résultat des élections. Qu'est-ce que vous proposez pour garantir cette transparence et cette crédibilité?
Que les candidats puissent avoir aussi, de la part de la CENI, un plus électoral, c'est-à-dire une enveloppe électorale là où se trouvent tous les documents. On doit avoir 5 parties prenantes, CENI, cour conditionnelle, cour d'appel, tribunal administratif, ainsi que les candidats. Ils doivent avoir un plus de la part de la CENI parce que la machine à voter capable de donner tous ces éléments-là, de mettre à la disposition de tous les intervenants de ces plis-là. Et ceci va faciliter le contentieux électoral.
Au Kassai-Oriental, à l'approche de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, le commissaire provincial de la police nationale congolaise en intérim demande aux policiers d'être apolitiques et de maintenir la discipline. Au cours d'une parade tenue hier samedi à l'état-major de PNC Kassai-Oriental, le commissaire provincial ad intérim a rappelé aux policiers les 3 missions dévolues à la PNC qui sont ordinaires, extraordinaires et spéciales. Il a ensuite demandé à la population d'être loin du périmètre de l'Assemblée provinciale le jour de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Le colonel Paul Lukandula, commissaire provincial de la PNC ad intérim, s'exprime au micro des journalistes de la chaîne 10e rue Télévision.
Nous avons voulu d'abord montrer à la police de savoir sa mission. La police, selon la loi organique, nous avons 3 missions. La première mission, c'est une mission ordinaire. La deuxième mission, c'est extraordinaire. Et la troisième mission, c'est spéciale. Et dans ce même ordre d'idées, j'ai voulu aussi parler de la discipline. C'est la seule discipline qui est la mère de toutes les armes. J'ai parlé aussi de la politisme. Vous savez, dans les Kassai oriental, nous avons plusieurs conflits de terres, de coutumes et même aussi de champs. Il peut y avoir un policier qui appartient à tel ou tel groupement, soit localité, et les deux localités sont en conflit, le policier n'a pas droit d'entrer dans ces conflits. Voilà pourquoi nous avons aussi parlé de l'élection du gouverneur. Il faut prévenir d'abord les policiers qu'ils sachent que nous avons un travail, que nous ne devons pas céder parce que l'oncle, la tante, ou mon petit frère, grand frère est candidat et peut-être il ne sera pas élu. Le policier n'a pas droit de manifester le mécontentement
ni moins manifester son appartenance à son frère ou bien son oncle, bien qu'il est candidat. Nous, notre parti politique, c'est la police.
Autre nouvelle, en marge de la table ronde interprovinciale entre le Grand Kasaï et le Grand Katanga, plusieurs groupes de personnes ont rencontré hier samedi à Lubumbashi le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Jean Gandou, l'objectif, c'est baliser le terrain pour une issue heureuse de ce pourparler.
Parmi les personnalités qui ont été reçues ce samedi, se trouvent notamment les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales des espaces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur y a aussi pris part. Devant la presse, Daniel Asselo a indiqué que
il faut que les gouverneurs des assemblées provinciales, le gouvernement de la République, nous puissions nous mettre en tête qu'il y a cette situation socio-économique qui ne va pas, plus particulièrement dans ces deux espaces ici qui posent problème, et il suffit qu'on améliore cette situation pour que les choses puissent changer.
Quant aux tensions dont on parle tant, Daniel Asselo a affirmé que les tireurs de ficelles se recrutent parmi les acteurs politiques et la population devrait bien s'en méfier. Les chefs coutumiers et autres représentants des deux communautés ont aussi rencontré le Premier ministre. Ceux de la communauté kasaïenne ont demandé aux responsables des différents groupes de jeunes ressortissants de leur espace de bien encadrer leurs membres et leur faire voir que tous doivent respecter les lois du pays. Du côté de la communauté katangaise, les chefs coutumiers ont pour leur part affirmé qu'il faut consolider la cohabitation pacifique par une bonne intégration des deux communautés, et cela dans le respect des valeurs culturelles qui caractérisent leurs espaces. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit direction Sud Kivu. L'adhésion de la RDC au sein de l'EAC est une opportunité pour les opérateurs économiques de cette province d'être compétitifs au niveau régional. Mais cela demandera de l'État congolais qu'il prenne des mesures de soutien économique pour aider ces entreprises à faire face à la concurrence des pays voisins. Déclaration du nouveau président provincial de la FEC Sud Kivu ce samedi 23 avril à Bukavu. Joyeux Baïdika, on l'écoute.
Aujourd'hui, le monde est ouvert. On ne peut pas travailler dans un environnement fermé. Et nous devons maintenant penser, nous les opérateurs économiques du Sud Kivu, de nous mettre en compétition, de nous mettre en condition de manière à prendre une place de choix au niveau de la région. Parce que nous savons que nous sommes entourés par deux pays bien organisés, avec une fiscalité attrayante. Vous connaissez ce que nous vivons ici avec notre fiscalité. Et je pense qu'il serait mieux de voir comment travailler avec les autorités du pays, les autorités de la province, afin qu'ils puissent aussi nous mettre dans des conditions de concurrence.
Ça serait quoi, avoir certaines exonérations ou subventions dans le secteur agricole?
Bon, exonérations, subventions, bon, je ne sais pas le dire maintenant. Je sais que l'agriculture partout au monde, elle a toujours été subventionnée. Les conditions dans lesquelles nous travaillons pour le moment ne nous permettent pas de produire et de nous mettre en compétition avec le pays voisin.
Notez que Joyeux Baïdika a été élu hier samedi par le membre de l'Assemblée générale élective de la FEC Sud Kivu à Bukavu. Il sera secondé par 4 vice-présidents et cela pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. 24 avril 2016, 24 avril 2022, cela fait exactement jour pour jour 6 ans que mourait sur la scène de la 9e édition du Festival de musique urbaine Anoumabo, FEMUA, à Abidjan, Côte d'Ivoire, la star congolaise Papa Wemba à l'âge de 67 ans. Pour commémorer cet anniversaire et célébrer en même temps la journée africaine de la musique, déclarée après la mort de Papa Wemba, le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine a élaboré un programme d'activités, entre autres une visite guidée dans la résidence de Papa Wemba. Selon la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, cette commémoration de l'anniversaire de la mort de Papa Wemba va au-delà des frontières nationales. Elle en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Ce n'est plus une journée seulement pour les Congolais, mais c'est une journée pour l'Afrique, parce que l'Afrique a reconnu Papa Wemba comme une grande star, mais aussi comme un détecteur de talents, mais aussi un faiseur de la joie de la musique, un contributeur à l'installation des patrimoines de l'Afrique. Et donc, cette date, c'est une date mémorable. Ça va être l'occasion que certaines personnes aillent découvrir, visiter le musée de la rumba, et l'occasion peut-être de poursuivre avec le lancement des activités autour de la rumba et de faire reconnaître connaître beaucoup plus le travail des précurseurs de la rumba en partant par Papa Wemba. Il y a eu des activités que la famille, par exemple, de Rochero Tabouley ont organisé lorsque c'était l'anniversaire de sa mort. Il y a aussi les autres qui ont organisé pour Simaro, où les gens sont allés s'incliner au monument qui a été mis en place à Lingwala pour sa mémoire. Voilà que le 24, c'est pour Papa Wemba, l'Afrique entière. On dira même le monde va célébrer cette journée-là.
Sachez que le 7 avril 2022, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a signé avec la veuve Papa Wemba, Marie-Rose Luzolodi, à Amazon, un acte de vente de la résidence de Papa Wemba pour la transformation de cette villa en musée de la rumba congolaise.
Actualité internationale.
Au Nigeria, au moins 80 morts, c'est le bilan d'une explosion qui a eu lieu vendredi soir dans une raffinerie de pétrole illégale dans l'état des rivières dans le sud du pays. Samedi, l'annonce faite par les autorités faisait état d'environ 100 morts, sans autre information sur les circonstances exactes de cette explosion. Le raffinage clandestin est très répandu dans le sud pétrolier du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, où les oléoducs sont régulièrement victimes des sabotages et les voleurs raffinant le pétrole brut ainsi recueilli pour le vendre sur le marché noir. Et puis, les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce 24 avril 2022. Face à face, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président sortant et candidat de la République En Marche, Emmanuel Macron. Le taux de participation à la mi-journée est de 26,41%.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Eric Mukumena, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, qui revient sur la situation du paludisme en RDC et les défis à relever dans la lutte contre cette maladie qui a touché près de 22 millions de personnes en RDC entre 2020 et 2021. Il s'exprime en marge de la célébration ce 24 avril de la Journée mondiale contre le paludisme. Docteur Eric Mukumena s'entretient avec Piro et la Mégie. Suivez.
Docteur Eric Mukumena, bonjour. Quelle est la situation du paludisme en RDC à ce jour?
À ce jour, nous avons terminé l'année 2020 dont le rapport est disponible avec à peu près 22 millions de cas de paludisme. 2021, c'était l'année passée, nous avons terminé cette année avec à peu près un sinistre record de à peu près 21 millions de cas de paludisme. Là où ça nous a piqué par rapport à 2020 et 2021, c'est le nombre d'essais qui a commencé à augmenter. L'OMS a sonné l'alarme parce que cette situation de décès qui a augmenté est une tendance générale qui a été observée pendant la période de la pandémie de Covid-19. Et donc, ça a vraiment impacté les cas de décès dans la République et puis partout dans le monde.
Quelle est la procédure la plus efficace mise en place dans la politique de lutte contre le paludisme en RDC?
En RDC, par rapport à la prévention, l'État mobilise suffisamment des ressources. Nous faisons des campagines de distribution municipale imprégnées d'insecticides. Nous incitons la population, sensibilisons la population à utiliser ces moustiquaires, à dormir toutes les nuits sur moustiquaires imprégnées. À tour de rôle, chaque 2 ans, chaque 3 ans, nous renouvelons le nombre de moustiquaires dans les ménages. Au-delà de ça, à travers la consultation prénatale, les femmes enceintes reçoivent aussi les moustiquaires et à travers la consultation préscolaire à la CPS, les enfants qui fréquentent la pesée, les services d'immunisation, de vaccination, reçoivent aussi les moustiquaires imprégnés. À partir de quelques années, l'État congolais s'est aussi engagé à protéger les enfants d'âge scolaire, d'école primaire, et donc nous organisons aussi les campagnes de distribution moustiquaire imprégnés dans les écoles. Au-delà de ça, l'État congolais mobilise suffisamment de médicaments et de tests pour diagnostiquer et traiter tout cas de paludisme. Et je rappelle ici que dans la politique nationale, l'État, le traitement du paludisme est subventionné, c'est gratuit. Les médicaments sont gratuits et les tests rapides sont gratuits. L'État congolais est en train de réfléchir à comment introduire d'autres stratégies comme la chimioprophylaxie préventive du nourrisson. Donc les enfants qui ont l'âge de la vaccination vont commencer à recevoir dans un culture très proche, là, une sulfadoxine pyrimétamine, connue plus sur le nolfantidar, toujours dans la prévention. Et dans les régions qui ont des paludismes saisonniers, on est en train de mobiliser les ressources pour qu'on puisse faire les traitements, la chimioprophylaxie préventive du paludisme avec des médicaments. Nous sommes en train d'étudier l'introduction du vaccin. Le vaccin, comme vous le savez, le vaccin a été validé par l'Organisation mondiale de la santé. En 2023, nous allons introduire le vaccin à petite échelle ici en République démocratique.
Est-ce qu'y a-t-il aujourd'hui quelques faiblesses à relever dans la stratégie qui vont pousser, par exemple, tous les partenaires impliqués dans l'amélioration de la prise en charge, la lutte contre le paludisme?
Bien, je pense que l'État congolais, vous le savez, vous avez suivi avec moi, est en train de mécaniser, d'ajouter le nombre de gens qui vont bénéficier du salaire et de la prime des risques. Ça, c'est un grand pas parce que ça va faire en sorte que les petits tickets modérateurs que certains prestataires dans des camps isolés qui ne sont pas payés vont renoncer à ces petits tickets modérateurs, ce qui va rendre vraiment la gratuité très très palpable et ça sera dans les bénéfices des personnes qui se rendent dans les zones de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux de l'État. Secondo, par rapport aux médicaments qui circulent, nous attirons l'attention que les médicaments qui entrent dans les pays, ce sont des médicaments de qualité. Vous avez tout intérêt à aller dans un centre médical qui est subventionné par l'État. Vous allez être bien soigné avec des médicaments de qualité.
Et la dernière question, docteur, quels sont les défis majeurs à relever aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme en RDC?
C'est d'abord les ressources humaines. On observe ces derniers temps beaucoup de changements depuis que la santé est devenue décentralisée. Ça veut dire qu'il y a des mises en place qu'on fait les matins, les soirées, une mise en place au niveau décentralisé. Et je pense que je plaide plus pour une stabilité des ressources humaines. Le deuxième défi majeur, c'est que l'utilisation effective des outils de prévention, la moussetière imprégnée. J'encourage tous les ménages à adhérer à l'utilisation effective de la moussetière imprégnée. Troisième défi majeur qui nous attend, c'est la multisectorialité de la lutte contre le paludisme. C'est une lutte qui est multisectorielle. Il y a la santé à sa place, d'autres. Et enfin, dans la même lancée, c'est la création du conseil pour l'élimination du paludisme que nous appelons de tous les voeux, qui va mobiliser les ressources à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays pour vraiment faire de la lutte contre le paludisme une lutte plus holistique.
Docteur Eric Mkomena, je vous dis merci.
Merci, bonne journée.